bah, ça change beaucoup le texte. Et en plus, pour ceux qui ont la possibilité de pouvoir le lire ou d'aller chercher les mots en grec ou en latin, ça change encore le sens. Donc d'approfondir la parole, parce que si on la lit de façon, on va dire, rapide, nous avons une lecture, mais pas forcément juste. Hein, moi j'aime bien dire qu'on pourrait croire que Paul était un sexiste, quand il dira à la femme, tais-toi, il est en train de prêcher, mais remettez les choses dans leur contexte historique. Comment sont créées une synagogue? Où sont les femmes? Où sont les hommes? Et comment ça fonctionnait? Ben, vous comprendrez qu'au bout d'un moment, Paul en a dit, bon, t'es bien mignonne, mais tu demanderas à ton mari. Je vais être gentil. Une synagogue, les femmes sont à l'étage, les hommes sont en bas. Bien sûr, les femmes sont avec les enfants. Je ne vous explique pas le bazar que ça doit faire là-haut. Et quand une femme ne comprenait pas, elle se mettait au balcon et elle disait, chérie, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, bah, voilà. Donc c'est pas qu'il était sexiste. C'est qu'il devait être souvent coupé et qu'à un moment, il dit, bon, vous êtes bien mignon, mais j'avance pas. Voilà. Donc il n'est pas sexiste, Paul. Mais voilà comment on peut vite fait détourner un texte biblique de sa réalité et de ce qu'il veut nous apporter. Et justement, sur ce thème, nous, on a prié avec ma femme, on a cherché Dieu, mais qu'est-ce que tu veux? Des fois, c'est ma femme qui a le thème, des fois, c'est moi qui ai le thème, mais elle m'aide à faire le plan. Et là, cette fois-ci, on n'avait rien. Si, une chose essentielle, on avait la paix. On avait plein de sujets, mais on avait la paix. On avait la paix de savoir qu'il allait se passer quelque chose aujourd'hui. On n'avait pas prévu de prier pour les gens. Mais on savait que Dieu allait agir. Est-ce que vous vous attendez à Dieu? Et voilà le sujet. Est-ce que nous nous attendons à Dieu? Est-ce que nous nous attendons à ce qu'il agisse dans nos vies? Donc, c'est rechercher la présence de Dieu. Ça faisait partie des thèmes. J'en ai plein. Voilà, d'habitude, moi, je suis sur une tablette, tout est préparé et tout. Voilà. Mais j'ai des pages et des pages de notes sur Seigneur, tu veux quoi? Et Dieu nous emmène dans des chemins que nous ne connaissons pas. Waouh! Et moi, j'aime mon Dieu parce que justement, Alors, je ne sais pas pour vous si d'être chrétien, c'est monotone. Et si c'est le cas pour vous, ben, je trouve ça vraiment triste parce que je peux vous dire une chose, moi, avec Dieu, ben, c'est la fête tout le temps. C'est jeu de piste, c'est rigolade, c'est il me met dans des situations totalement improbables, où il me met d'un seul coup dans une conversation, je dis rien, et je dis une chose. Oh punaise, j'ai jeté un pavé dans la mare. Mais est-ce qu'on est à l'écoute de Dieu? Ou est-ce qu'on est à l'écoute de soi-même? Rechercher la présence de Dieu. Et souvent, ce qu'on pourrait mettre en parallèle à rechercher la présence de Dieu, c'est finalement, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu? Alors c'est bien, je rends gloire à Dieu parce que je n'avais pas parlé longtemps, je vous rassure, vous serez à table, parce que on va rester dans la parole de Dieu, on va parler de Dieu. Alors je vais vous donner un exemple, et on va tout de suite ouvrir notre magnifique Bible. Parole de Dieu, mode d'emploi, livre saint. Waouh! Moi j'aime la parole. Parce qu'elle me parle tout le temps. Elle me parle tout le temps et on va lire dans le livre de. Où je l'ai marqué où du coup? Je vous dis, hein, c'est rien de partout. Bah oui, Daniel 9. Non, on va lire juste Daniel 10. Juste Daniel 10. Allez. Donc je vous invite à ouvrir la parole dans Daniel. J'ai perdu mon Daniel. Alléluia. Ça c'est bien, je vous laisse le temps de chercher. J'ai perdu mon petit Daniel. Oh. Ça c'est le fait être de changer tout le temps de Bible. Mais je sais qu'il est là. Oh, c'est pénible. Il se cache, mon petit Daniel. Cherche chez Daniel 10. C'est dingue. Ah, c'est pas possible. Bon, si quelqu'un l'a, peut le lire. On m'a volé mon dernier. Ah, je savais qu'il était là. C'est terrible. Alors, je remets mettre un peu dans le contexte. On remet dans le contexte. Donc, je vous rappelle que Daniel est un joli garçon de famille noble qui a été emmené en captivité dans le pays de Babylone en tant qu'esclave. Donc, il a été séparé de ses parents, de sa famille, avec un peu de chance qu'ils ont été tués. Donc, il est avec des amis, hein, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, on connaît l'histoire de la fosse au lion, la fournaise. Et il y a, moi, d'autres passages qui me parlent. Et donc, c'est dans Daniel 10, où donc Daniel, juste avant, a fait une longue prière, parce que on le trouve dans Daniel 9, je vous fais grâce, mais vous pouvez le lire, c'est très intéressant, où il va étudier et va dire, « Oh Seigneur, tu as dit 70 ans et après, ça sera fini. » Donc, il connaît la parole de Dieu, il connaît les promesses de Dieu et il va s'appuyer dessus. Eh oui, c'est pas que d'un seul coup il est illuminé, mais il connaît la parole de Dieu, il va creuser la parole de Dieu. Donc lui, c'était la Torah, d'accord, avec les prophètes. Ok? Et donc, ils sont donc en. Et donc, j'aime beaucoup ce passage de Daniel 10, parce que nous, très chrétiens de l'ère micro-ondes avec Internet haut débit. Et tout ce qui va avec, des voitures, où j'ai vu que maintenant on fait des voitures avec 3000 chevaux pour dépasser les 500, soit 530 ou 60. Bon. De toute façon, vous êtes en première, vous êtes déjà en excès de vitesse. On va voir que souvent, nous n'attendons pas la réponse de Dieu. Et je voudrais vous encourager dans cette lecture, justement, de rechercher la présence de Dieu. Et on va commencer dans donc Daniel 10. À partir du verset 2. En ce temps-là, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Dans le deuil, ça ne veut pas dire qu'il est en train de pleurer, mais il s'humilie. Alors, c'est-à-dire qu'il va prendre du temps. Oula, c'est quoi ce mot prendre du temps? On est dans un monde où on n'a jamais de temps. Il faut aller faire les courses, et puis il y a le travail, il y a ci, il y a ça. On n'a pas de temps. On n'a jamais le temps. En général, le temps moyen des chrétiens, c'est en fin de journée si on a encore de l'énergie. Si c'est le cas, ben je vous annonce que vous n'êtes pas dans le bon schéma de Dieu. C'est que si vous voulez prendre du temps, il faudrait commencer par chercher le Seigneur et après faire le reste de votre journée. Voilà, je vous le glisse. Bon courage. Moi, le Seigneur, il a travaillé dessus et les réponses qu'il m'a données, ce n'était pas forcément celles que j'escomptais. Mais ce qu'il dit est bon. Et donc, il était dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Donc, on est encore dans le jeûne de Daniel, on voit. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche et je ne me fis encore aucune onction jusqu'à ce que 3 semaines soient accomplies. Donc, pendant 3 semaines, Daniel va se mettre dans une position de rechercher Dieu. Il va humilier son corps. En d'autres termes, il va faire un jeûne. Alors, je dirais, et ça c'est un petit aparté, ça ne sert à rien de faire de jeûne si vous n'avez déjà pas de temps personnel avec Christ. Parce que je sais que c'est un peu la mode dans les églises, on fait des jeûnes. Oh, on va faire un jeûne! Ouais! Mais est-ce que la semaine déjà tu prends du temps avec le Seigneur? Non! Prends d'abord déjà du temps avec le Seigneur, on verra pour le jeûne plus tard. Mais déjà commence à organiser ta vie avec le Seigneur. Commence à le mettre en priorité, à chercher sa volonté pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, pour ton épouse. Tu verras comment le Seigneur va répondre. Et je peux vous dire, il répond. Amen. Donc pendant 3 semaines, Daniel va chercher la présence de Dieu en contrôlant son corps. T'as pas de vin, t'as pas de viande, on va manger. Donc, jeûne de Daniel, je vous rappelle, c'est des légumes à l'eau. Et des fruits et de l'eau. Voilà. Ni plus, ni moins. Pas de mets délicats, pas de viande, pas de plats en sauce, pas de coca, pas de petits punchs, rien. De l'eau. D'accord? Et regardez ce qui vient. Ça, j'aime beaucoup. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord d'un grand fleuve qui est à Idelkef. Excusez-moi, je prononce mal les noms. Je levais les yeux et je regardais, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or d'Orfer. Son corps était comme la chrysolide, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Waouh ! Moi, Daniel, je vis seul la vision, mais regardez bien. Moi, j'aime la parole de Dieu. Regardez bien. On va décortiquer ce verset. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Ah bon? Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Expliquez-moi, quelqu'un qui ne voit strictement rien, d'un seul coup est pris d'une frayeur immense et se barre. Je vous rappelle que Daniel, ça fait 3 semaines qu'il s'humilie et donc qu'il se sanctifie. Et là, il est avec ses copains au bord de la rivière et cet ange qui vient, seul Daniel va pouvoir le voir, mais rien que la présence de l'ange va se faire manifeste. Et ces hommes qui ne voient strictement rien, ils vont avoir peur. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais ça sent pas bon pour eux. Ben oui. Daniel s'est sanctifié. En fait, je vais enlever mon masque. Alléluia. Rien que la manifestation de la présence de cet ange, donc de la présence de Dieu, ces hommes, on ne sait pas qui sont, s'ils sont du peuple juif ou pas, mais ils vont ressentir la présence. Et ils vont sentir que ça ne sent pas bon pour eux. Mais par contre, Daniel, lui, va rester seul. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais une chose qui va se passer, c'est que Daniel, au bout quand même de 3 semaines, son corps est un peu quand même affaibli. Plus la manifestation de la présence de Dieu, ben là, il n'y a plus de force, il n'y a plus rien. Il est vide. Il est vide. Et au verset 17, et là, donc c'est Daniel qui parle, « Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur maintenant ?» Aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un point déjà 3 semaines de mise à part, plus la présence de Dieu. Alors là, il n'y a plus personne. Moi je sais que quand on prie ou quand on a des temps comme ça, ou quand on prie pour des délivrances, je peux vous dire une chose, je dors après. C'est crevant. Parce qu'il faut chercher la présence de Dieu et que Dieu passe à travers vous. Parce que moi je fais rien, je vous rassure. Je suis de la même nature que vous. Je ne peux rien faire, mais je cherche la volonté de Dieu et que Dieu passe, Dieu passe. Donc c'est-à-dire moins de tuyaux, plus de lui. Ben, ça demande de l'énergie, ça demande du... Et là, donc notre Daniel, il est flingué, on dirait. Il est sur les rotules. Mais regardez ce qu'il fait. Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Et le Seigneur va le fortifier de l'intérieur. Il va lui donner de l'énergie. Combien d'entre nous manquons d'énergie ou de volonté? Combien de fois... Oh, ouvrir la parole, on verra ça demain. Moi le premier, Je ne vous demande pas de lever la main. Moi je vous le dis. Je le fais. Et après, je fais. Oh, réveille-toi. Ben, des fois, le Seigneur, il m'a réveillé la nuit pour réallumer la lumière et passer du temps dans sa présence. Après, est-ce qu'on oublie ou on n'oublie pas? Ça, c'est à chacun. Recherchez. Moi, j'aime ce Dieu qui fait que les cœurs contrits. C'est ce qui a été annoncé. Alors, vous voyez, Dieu conduit toutes choses. Les cœurs contrits, les cœurs qui cherchent Dieu peuvent être touchés et repartir. Parce que lui, il a le moyen. Il a les pièces, il a tout ce dont on a besoin. Et il va relever Daniel. Mais il y a un passage qui est très intéressant. Donc là, on va faire un petit marche arrière. On va aller au verset 13. Donc là, c'est l'ange qui parle. Le chef du royaume de Perse, donc ce n'est pas le roi de Perse qu'on parle en l'occurrence là, c'est le prince des ténèbres, m'a résisté pendant 21 jours. C'est bizarre quand même, hein? 21 temps. 3 semaines, 7 fois 3. Ouais, 21. Daniel, il va prendre 3 semaines pour attendre une réponse. 3 semaines dans le jeûne, ou tout du moins dans des temps particuliers de chercher sa présence et attendre. 3 semaines, 21 jours, l'ange qui devait descendre, lui donner l'information, va être bloqué dans le royaume spirituel. Et pendant 21 jours, cet homme qui a confiance en Dieu, cet homme qui cherche la présence de Dieu, va prendre le temps, va attendre. C'est un mot qu'on ne connaît plus. On n'attend plus. On est pressé pour tout. Les gens ne roulent pas assez vite. Au feu, ils ne démarrent pas assez vite. Le repas, il n'est pas encore chaud quand il faut. Les ordinateurs ne démarrent pas encore assez rapidement. Il faudrait que je vous fasse voir le mien au boulot. Ça vous donnerait de l'humilité. Bon, j'ai un bel ordinateur en réseau. Vous cliquez, je peux aller boire un café. Mais vraiment, mais là, ce n'est pas pour rigoler, hein. Je peux sortir du bureau, aller me chercher un café, revenir avec le café à la main. Le programme n'est toujours pas ouvert. Merci Seigneur de me donner de la patience. Bon, 21 jours, l'ange va devoir combattre et mais voici que Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre. Et donc là, ça y est, il a son information. 21 jours. 21 jours. C'est long. C'est super long, hein. Quand on commande sur Amazon, on vous dit 21 jours. Hein? Bon, attends, je vais aller sur un autre site, hein, je ne peux pas l'avoir plus vite, hein. Je le veux demain. Il n'y a pas un truc là pour l'avoir cet après-midi? Le problème, c'est que, comme ça a été dit en parole, de quoi avons-nous fait Dieu? Un distributeur automatique? Ou est-ce que l'on vient chercher juste sa présence? Personnellement, c'est une chose que j'ai découvert et que j'ai fait. Le Seigneur m'a demandé de le faire dans un lieu particulier et qu'on a commencé à même à le pratiquer et à le faire partager à certains frères et sœurs, où on ne vient que pour chercher sa présence, sans aucune idée de demande. Nous sommes, pour ma part, je trouve, souvent en train de demander à Dieu, mais combien de temps on passe juste pour être avec lui? Si vous avez des enfants et qu'ils ne voient jamais leurs parents, et que d'un seul coup, ils débarquent, je veux une PlayStation, je veux une voiture, je veux une femme, je veux de l'argent, C'est ça la vie avec Dieu? C'est ça? Non. Rechercher Dieu, c'est déjà le connaître. C'est de comprendre comment il fonctionne. Pourquoi il fait telle ou telle chose? Combien de mauvaises pensées avons-nous été inculquées dans les églises? Vous savez, il y a une chose que j'ai marquée, alors attendez, je le cherche. La séduction du monde est aussi dans l'église. Et nous nous croyons bien. Ah, nous, on est la meilleure église. Hein. Vous êtes dans n'importe quelle église, ils se croient. Hey. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. C'est super dangereux. C'est une erreur fondamentale. Nous devons nous remettre en question devant sa présence. Nous les responsables. Mais vous, les membres du corps de Christ, nous devons nous remettre en question. Et c'est ce que l'on fait par rapport avec Lionel, par rapport à la parole de Dieu. Combien d'hérésies nous avons entendues et acceptées dans nos vies qui sont des mensonges de l'ennemi. Parce que je vous rappelle, il connaît mieux la parole. Donc, il ne veut pas que vous rentriez dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire la vérité et vous allez commencer à prospérer. Vous voulez un exemple dans la parole? Eh bien, je vous en donnais un, très facile. Isaac, le fils d'Abraham, vous connaissez l'histoire? Et les puits? Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Allez, on va aller voir ça. Moi, je pense que c'est une chose intéressante. C'est dans Genèse 26. Genèse 26. On va voir, l'ennemi, il est toujours là pour vous assécher. Genèse 26. Dans Genèse 26, verset 15, je vais juste prendre la partie où, qui nous concerne. Donc, je vais juste remettre aussi encore dans le contexte vite fait. Donc, Isaac, il est dans le pays des Philistins. Et puis, vu qu'il est serviteur de Dieu, Dieu va le faire prospérer. Donc, c'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus riche. Donc à l'époque, c'était tout ce qui était bétail, moisson, etc. Et le problème, c'est que ce joli jeune homme devient extrêmement riche, donc très puissant, avec beaucoup de serviteurs. Et on voit au verset 15, « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. » En gros, c'était bien mignon. Va-t'en. Pour rester poli. Va-t'en. C'est écrit dans le texte, ils lui diront, tu deviens trop puissant pour nous, va-t'en. Et il va partir, à droite, à gauche, et à chaque fois il va creuser des puits, et il va lui arriver la même situation. Et on va même lui voler les puits, et puis lui à chaque fois il se déplace. L'ennemi de nos âmes... Vous avez un puits, hein? Jésus a dit, il coulera de votre sein des sources d'eau de vie. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il va le remplir de toutes sortes de cochonneries, de terre, pour que vous ayez plus de la source d'eau vive. Et vous mordez la poussière. Vous êtes desséché, vous êtes débranché, vous vous asséchez. Combien de chrétiens, combien de serviteurs de Dieu ne... Plonge pas dans la parole de Dieu. Ne prennent pas du temps dans la parole de Dieu. Ne se confrontent pas à la parole de Dieu. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. La parole de Dieu, sur certains points, on peut être discutable, mais sur d'autres, elle est très claire. Elle est claire. Entre autres sur le pardon. Je crois qu'il n'y a pas besoin de déblatérer dessus. La parole est claire. Et même Jésus, quand il va apprendre aux disciples de prier, il est dans le Notre Père. Et que j'entends des chrétiens, alléluia, parce que je peux parler, parce que vu que je travaille dans une société, donc je côtoie d'autres chrétiens, donc j'ai des discussions avec d'autres chrétiens, j'entends des chrétiens qui me disent, je ne lui pardonnerai pas. Mais que lis-tu dans la parole? Après, tu peux lire, mais tu n'es pas capable, ce qui est différent. Parce que là, c'est déjà que tu es passé à un niveau au-dessus, c'est que tu te rends compte qu'il y a un truc qui cloche dans ta vie. Et là, je dirais que tu es déjà en marche. Alors, ou tu t'en rends compte et tu demandes à Dieu et Dieu va faire son œuvre, si tu le laisses faire, ou tu demanderas l'intermédiaire de frères et sœurs qui prient pour toi, qui vont t'aider à justement se mettre dans la lumière de Christ. Et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que à la fin, il va creuser un puits qui s'appelle Sheba, qui va être le puits de la conciliation, où ils vont trouver un accord entre les Philistins et la ville qui va être créée à côté, c'est Bel, et ça devient le puits de Belsheba. Et c'est le même puits où Jésus discutera avec la Samaritaine. Le puits de la réconciliation. Mais la parole de Dieu est tellement profonde, est tellement extraordinaire. Mais l'ennemi veut vous combler de toutes sortes de choses. Alors j'en ai énuméré quelques-uns, parce que je fais des travelling de partout sur mes notes. Nous sommes dans un monde où, moi je trouve super, on l'entend même maintenant à France Info, les influenceurs. Hein? Les influenceurs sur Internet, des gens qui donnent des idées, et puis les gens qui adhèrent à leurs pensées, etc. Qu'est-ce qui influence dans votre vie? La parole de Dieu? Vos émotions? Vos relations? Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Parce que j'ai noté des trucs, moi, par-ci, par-là. Eh oui. Les circonstances, ce que l'on voit, ce que notre oreille entend, ou ce qui influence notre vie, c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu s'égarent parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et ayant un ennemi qui la connaît super bien, si nous ne sommes pas remplis et gloire à Dieu, moi je vais lui rendre toute la gloire pour ceux qui ont été cette grâce de recevoir le Saint-Esprit. C'est une grâce parce que le Saint-Esprit nous révèle la parole. Mais il faut savoir que le Saint-Esprit sonde les pensées du Père et du Fils et il nous les révèle. Vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la grâce que Dieu vous fait? De la grâce que Dieu me fait? Qu'est-ce qui dirige notre vie? Est-ce que c'est la peur qui nous paralyse ou qui diminue nos capacités? Ah! Moi, je rends gloire à Dieu parce que moi, quand j'ai commencé dans mon entreprise, on nous a mis devant les ordinateurs, personne ne savait en faire. Et on a dû se débrouiller tout seul. Alors là, je vous dis, on s'est tapé des crises de rire. On faisait disparaître des tableaux. On décalait des trucs, on ne savait même pas comment on avait fait. On n'était pas capable de les remettre en place. Et ce qui était super, donc du coup, on était tous plus ou moins sur un pied d'égalité. Parce qu'on s'est retrouvés à faire des tableaux sur Excel. Alors quand vous n'y connaissez rien sur Excel, vous rigolez bien. Mais quand quelqu'un avait trouvé quelque chose, il me disait, hey, viens, viens, viens. Regarde, en faisant ça, ça fait ça. Oh, c'est super. Et puis quand c'était l'autre, viens, 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 en fait, j'y trouve autre chose. Et en fait, on s'est entraidés. Et c'était super, c'est qu'on nous a fait faire la formation après. Mais on avait cette ambiance, cette dynamique de travailler ensemble. Et je peux vous dire, on a fait des gaffes et des grosses bêtises. Ah, on ne nous disait rien, donc on se débrouillait, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Mais la parole de Dieu, elle est là. ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Vous l'avez. Le Saint-Esprit vous a été donné. Il révèle la parole. Si tu ne sais pas, tu dis, il va te donner une histoire. Dire, tiens, pourquoi il me fait penser à cette histoire-là? Bon, ben, attends. Attendez, vous prenez votre téléphone, vous faites Google. L'histoire de Bathsheba. Il vous donnera tous les versets. Moi, avant, il fallait prendre la concordance. Et vous tapez tous les... pour chercher. Nous avons des moyens pour lire la parole. Lionel nous a donné un bon moyen pour décortiquer certains mots qui, des fois, bah, ils ont été traduits comme ils pouvaient, mais qui ne sont pas forcément très, très justes. On a ces moyens-là. Et on les utilise ? Non, on ne les utilise pas. Par contre, on aime bien aller sur Internet. Et toutes sortes de prophéties que vous trouvez sur Internet, à boire et à manger, alors là, on y va. Mes frères et sœurs, soyons raisonnables, soyons sérieux. Vous entendez quelque chose ? Mettez-le au pied du Saint-Esprit. Dire, Seigneur, qu'est-ce que toi t'en penses ? Moi, je suis sûr que le Saint-Esprit vous dira, arrête. Il y a des sites qui sont très bien, des églises qui font de très belles choses, mais arrêtez de manger à tous les râteliers. Si vous êtes enfant de cette maison, n'allez pas manger dans l'autre maison. C'est dangereux. C'est dangereux. Moi, je sais que j'ai un couple qui m'ont dit, voilà, nous, on aime bien écouter ça. Ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais écouter, savoir si c'est juste ? Moi, j'ai trouvé ça, c'était une attitude saine. Donc, on va prendre ce temps pour écouter les prédications de cet homme, pour savoir et de dire, de pouvoir en avoir une discussion. Au moins, il dit, bon, on aime bien. Voilà, ils ont un peu. Voilà, c'est des fibres, parce qu'après, il y a des fibres. Hein, si on est antillais, on aime bien ce qui est antillais. On est comme on est, hein, il n'y a pas de problème. Hein, hein, si on est africain, ben voilà, il y a des connaissances. Connotation, ça y est, je vais arriver. Voilà, on est plus affiliés, c'est pas grave. Mais attention, tout n'est pas bon. Il n'y a jamais eu autant de prophéties que sur Internet. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné. Tu ne peux pas avoir l'héritage de ton voisin. C'est ton héritage de ta famille. T'es enfant d'où ? Ton héritage est dans ta famille. On ne peut pas aller ailleurs. Arrêtons de partir de partout. Cherchez sa présence. Cherchez. Il y a des solutions. Déjà, si vous avez cette sensation de dire, tiens, il y a un truc qui cloche dans ma vie, dans les solutions, c'est déjà c'est déculpabiliser. La situation, de dire ouais, j'ai un problème, bah, si tu l'as déjà, tu le dis, c'est que déjà il y a une solution. Vous n'êtes pas seul. Combien d'hommes, de femmes, de familles sont dans des situations similaires ? Je donnerai pas de. Le Seigneur a déjà préparé la solution et décidé de s'en débarrasser. Vous savez, il y en a beaucoup, c'est des fausses protections. Ce sont des fausses protections. Et on se met dans une situation délicate. Et du coup, on pense être protégé, mais on blesse tous les autres autour. Mais nous, on se protège. Mais nous-mêmes, on est blessés. Nous-mêmes, on est impactés. Dire non, là, il y a un truc qui ne colle pas. Je vous ai expliqué, moi, par rapport au fait que je n'aimais pas les gens. Comment un pasteur ne peut pas aimer les gens ? Eh oh, il y a un problème. Oh. Ben, c'était moi le problème, c'était pas Dieu. Et gloire à Dieu, il a fait son œuvre. Dieu est fidèle. Dieu peut répondre aux réponses. Chercher Dieu de tout son cœur, ça demande de l'énergie, ça demande de la volonté, ça demande de l'engagement. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, mes frères. Mais s'il vous plaît, prenez ce temps. Jamais été autant béni, délivré. Moi, j'ai vécu des délivrances tout seul dans ma chambre. parce que voilà, je me mettais devant Dieu, je sais que je ne suis pas bien, je sais qu'il y a ça et ça, j'ai besoin de toi, et il m'en a libéré. Mais il y a d'autres choses, j'ai eu besoin d'aide extérieure pour me libérer. Parce qu'il fallait que ça sorte, il fallait que ça soit dit. Eh, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Je vous laisserai cette lecture et cette réflexion, parce que je ne vais pas aller trop loin. Je vais vous donner deux passages bibliques. C'est Luc 15, de 4 à 10, ces deux histoires. C'est Jésus qui parle, c'est la brebis perdue et c'est la drague perdue dans la maison. Et de l'énergie et de la joie qui en découle. Lisez-le, c'est des paroles pour notre vie. Je vous invite aussi à lire Luc 17, 20 à 24. Luc 17, 20 à 24, c'est dans la fin des temps, on dira le Seigneur il est là et les gens vont courir. Et puis on dira tiens il est dans cette église et les gens vont partir. Le Seigneur vous dit ne bougez pas. Je vous rappelle un petit détail, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu est en vous. Dieu est en vous. Il n'est pas dans une autre église, parce qu'il est dans l'autre église, mais il est en vous. Parce qu'il est dans chacun de ses enfants. Cherchez le royaume de Dieu. Luc 11, 9 ou Matthieu 7, 7, cherchez et vous trouverez, dirait la parole. Frappez, on vous ouvrira. Frappez dans le lieu secret, prenez du temps dans la présence de Dieu et vous verrez que Dieu va vous répondre. Et je finirai par Jérémie 29, 13 qui dit, si vous... Bon, on va le lire, c'est mieux. Jérémie 29, 13, et je m'arrêterai sur cela. J'ai dit que je ne ferai pas long. Et ça y est, je suis parti. C'est la Bible de mon père et c'est colorié dedans. Vous me chercherez si vous... Je recommence. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car vous me cherchez de tout votre cœur. Ben, je vous invite à faire une introspection de qu'est-ce qui est dans votre cœur pour savoir si vous êtes capable de chercher de tout votre cœur. Moi, perso, il m'a fallu un certain temps. Moi, il m'a fallu du temps. Mais Dieu a été fidèle et il m'a encouragé. Et il est fidèle et il vous encouragera. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu attend ses enfants. Dieu n'a pas changé. Il descendait tous les jours dans le jardin d'Éden pour discuter avec Adam. Dieu veut tous les jours passer du temps avec sa fille, avec son fils, grand et petit. Si vous le cherchez de tout votre cœur, peut-être qu'il y a des larmes qui couleront. Mais c'est souvent des larmes de délivrance. Mais Dieu va les récupérer, dit la parole, et vous remplira, vous fortifiera, et vous emmènera dans la plénitude de sa présence. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te louer, te remercier, parce que, oui, c'est toi, et toi seul qui es digne de louange. Seigneur, c'était tellement bizarre, cette préparation de message, mais j'avais tellement une joie de venir aujourd'hui dans ta maison, de rencontrer mes frères et sœurs, parce que je savais que tu voulais faire quelque chose. Et comme j'ai pu le dire dans la réunion de prière ce matin avec les coéquipières, la pensée que j'avais, c'était malléable. Sois malléable, soyons malléables, parce que si nous débouchons les puits, du coup, les sources d'eau vive vont sortir. Du coup, nous qui sommes de l'argile, si nous sommes hydratés de la présence de Dieu, nous devenons malléables dans sa main. Nous avons besoin d'être hydratés, lavés, pour devenir souples, pour que notre Créateur puisse nous modeler et nous faire voir des choses que nous ne pensons pas possibles. Père, je te rends toute la gloire. Je veux te louer, te remercier, Seigneur, pour tous ceux qui se sont avancés devant toi. Je te rends toute la gloire parce que je sais que tu es le Dieu fidèle et juste et qui accomplit ses promesses dans leur vie. Je veux les bénir. Je veux bénir aussi ceux qui ne se sont pas levés. Tu connais leur cœur. Tu ne juges pas. Et fais-leur du bien, papa, dans le beau nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors,